Bonjour, bienvenue à cette 38e émission de Pas d'affolement, nous voilà, sur Radio Entre-deux-Mers 98.4. Nous avons comme invité Anne-Cécile Paradès et nous sommes en présence de Valérie, Brigitte, Philippe, Houssine, Alain, Béatrice, Guillaume, Franck, Francis à la technique et moi-même Sylviane. Question à l'invité. Bonjour Anne-Cécile, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Anne-Cécile Paredes. Eh bien, au début, je suis photographe. Et puis, petit à petit, je suis devenue aussi auteur. Et maintenant, bientôt, je vais devenir metteur en scène. Mais au début, je fais de la photographie. Je fais de la photo pas spontanée, comme on en parlait tout à l'heure. Je fais de la photo où je mets en scène des histoires. Ce que j'aime bien, c'est que les gens me racontent des histoires et fabriquer une image pour eux. Voilà.
Merci.
Et à quel âge, alors, vous avez commencé ce métier ?
Alors, c'est compliqué. Dans le sens où j'ai commencé à photographier, je pense, autour de 18 ans, 18-19 ans. Et j'ai commencé à en vivre, je dirais, à 28 ans. C'est-à-dire que on devient un métier quand on en gagne de l'argent.
Il y a 10 ans d'apprentissage, en fin de compte.
Oui, d'expérience, et puis aussi de temps, je ne sais pas si c'est d'apprentissage, mais de temps de faire reconnaître son travail, que les gens veuillent bien me payer pour ça, en fait.
Avez-vous suivi une formation spécialisée dans la photographie ?
Non, pas du tout. J'ai fait des études. Je suis allée même jusqu'à un master. Des études qui concernaient plutôt, on va dire, le centre c'était la sociologie, donc il y a un rapport avec l'autre quand même, et la dimension culturelle aussi. Et à la fin de ces études, j'ai fait un stage dans une association qui faisait du cinéma expérimental et qui a participé au fait que j'ai continuer à faire de la photo.
Pouvez-vous nous raconter comment vous avez eu votre premier appareil photo ?
Eh bien, je pense que j'ai eu mon premier appareil photo pour un voyage, où quand j'avais 19 ans, je suis repartie dans le pays où je suis née. Et donc forcément, comme n'importe quelle personne qui voyage, alors, je ne sais pas si on m'a offert, si je me suis acheté. Mais en tout cas, j'y suis allée avec un appareil qui était un vieux Minolta en argentique.
Et c'est votre pays, c'est...
C'est le Pérou.
Ah, ouais. Merci.
Lima, la casita.
Ouais, c'est ça, je suis née à Lima.
Ah oui. Et votre vie, elle aurait été influencée par la pratique de la photographie ?
Et...
Ou ça, rien ?
Si, si, parce que moi j'ai un. Il y a un lien entre parfois ma vie et la photographie. C'est-à-dire que, vu que j'aime bien les histoires, je raconte celles des autres, mais je raconte aussi la mienne. Et du coup, la photographie peut avoir un impact sur ce qui m'est arrivé, quoi.
Quels sont les pays que vous avez visités ?
Alors, j'ai pas mal voyagé en Amérique du Sud, et pas tant que ça en Europe. Mais parce que voyager, ça coûte cher. Et du coup, chaque fois que j'avais de l'argent, je repartais voir ma famille au Pérou, qui est le Pérou. Et du coup, j'ai fait beaucoup de pays frontières. J'ai fait la Bolivie, l'Argentine, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Panama.
Ce sont des pays latins.
Oui, chaque fois j'en profitais. J'allais là-bas et j'en profitais pour aller autour. Voilà.
Alors, c'est ces origines sud-américaines qui ont influencé votre travail, en fin de compte.
Ouais, je pense que, en tout cas, l'idée de repartir dans son pays, de garder une trace, un souvenir, de raconter des histoires singulières, ont eu, de fait, un impact sur ma pratique artistique. Je serais partie si j'étais pas née de ça, je crois.
Ah oui, bon. Très bien.
Quelles sont les influences de vos origines sur votre travail ?
Eh bien, justement, ce que j'ai dit, c'est que j'ai pris la première fois l'appareil photo pour me rappeler de ce que je pouvais vivre là-bas, pour photographier mon père que je voyais pas beaucoup, pour garder une trace. La photographie, c'est un peu comme la mémoire. La photo, à la base, c'est de la lumière qui rentre dans un appareil et qui fait une empreinte. Cette empreinte, c'est la photo, en fait. Et du coup, pour moi, c'était un peu comme... un peu comme la mémoire, c'est quelque chose qui rentre en nous et qui laisse une empreinte, comme un souvenir.
Voilà. Alors c'est une question qui coule de sens, mais c'est une passion avant tout.
Oui.
Oui, c'est, on peut dire que c'est une passion au départ.
Oui, voilà, j'avais un appareil photo tout le temps, quoi. J'avais un appareil photo et puis je photographiais comme n'importe qui prend des photos, parce qu'aujourd'hui en plus... les gens, ils photographient tout le temps avec leur téléphone, et c'est très bien. Hein. Et puis, à un moment donné, il a fallu, quand j'ai décidé que j'avais envie que ça devienne un métier, ben il a fallu quand même que je pose un peu des mots précis sur ce travail photographique. Qu'est-ce que j'aimais photographier? Pourquoi je photographiais? À quoi ça servait pour moi de photographier? Et c'est là plutôt que j'ai arrêté de faire des photos un peu comme tout le monde.
Des paysages au départ, non ?
Ouais, des paysages ou des gens. Avant, je photographiais vraiment comme on peut faire de la photographie documentaire ou journalistique. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est fabriquer des images.
Des photos d'art ?
Ouais, c'est des photos d'art.
En noir et blanc ?
Non, c'est toujours de la couleur.
Que de la couleur ?
Moi, j'aime bien la couleur parce que je trouve que... parce que ça nous parle de la réalité... ça embrouille moins sur le temps, et je trouve que c'est plus difficile, parce que j'ai l'impression que quand c'est en noir et blanc, tout le monde est beau, quoi.
C'est la création, vous créez.
Ouais, moi je crée, et puis je mets en scène. C'est vraiment se dire, par exemple, pour vous donner un exemple, si je veux créer une photo qui parle d'une radio, eh ben, je vais aller chercher un studio de radio, et puis je vais trouver des gens en leur mettant des casques comme aujourd'hui, en leur disant, voilà, on va recréer des gestes, et on va faire une photo ensemble.
Il y aura une mise en scène.
Il y aura une mise en scène, c'est
théâtral.
Ça. C'est totalement théâtral et ça peut entraîner des techniques un peu comme de la photographie de mode. Des flashs.
C'est du cinéma, hein, un peu en même temps.
C'est un peu du cinéma arrêté. Et moi, j'aime bien ça parce que c'est aussi un travail d'équipe. Parce que mes photos, généralement, elles essayent d'avoir un peu d'humour et de... Par exemple, on pourrait imaginer que dans cet studio de radio, je voudrais le remplir de feuilles. Par exemple, hein, je dis n'importe quoi. Et ben là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière et qui jette des feuilles.
Oui, oui.
Et du coup, ça devient un travail d'équipe aussi. C'est rigolo, on se marre bien.
C'est une mise en scène.
Voilà. Ouais.
Je vous remercie. Par contre, j'ai un texte que j'aimerais vous faire partager.
Vous.
Sur le fil des vies. C'est écrit par moi. Comme le soir, des vents qui soufflent la tourmente et font perdre la raison dans les cœurs esselés pour les réduire au silence des nuits noires et glaciales qui emportent avec eux ceux auxquels on ne pense pas. Les rires ne résonneront plus car, pour chacun, la solitude frappera en pleine nuit. Dans le cœur et dans les vies, des vies fragiles qu'on croyait protégées, écoutées, soutenues. Il arrive parfois qu'assis par terre, certains soient là, muets dans leur sort, qu'on les ignore ou qu'on les remarque, à quel point pouvons-nous agir pour que, en ces périodes de grand froid, tous puissent trouver un abri chaud, une table remplie et l'affection pour être soutenue. Les familles de nos jours sont brisées, les milieux sociaux de vraies arènes, le monde du travail est impitoyable. Il faut que, quel que soit notre niveau de vie, se battre. On dérive et c'est l'impasse. Sans savoir la vie de chacun, je m'inquiète car ça arrive sans qu'on s'y attende. Comment appeler à l'aide ? À qui doit-on s'adresser ? Sur ce fil précaire, tout semble perdu. Le monde nous paraît comme un immense broyeur qui détruit et démolit tout ce que nous avons. Envoler le miroir du matin, envoler notre chanson préférée que le bruit des voitures remplace, Pouvons-nous penser que demain, nous trouverons un mur, une impasse et adieu? Malgré tout, je refuse de dire adieu. Je refuse d'être ce passant qui donne une monnaie et oublie qu'on est l'humanité. Humains, sommes-nous humains? Le sommes-nous vraiment devant la misère qui touche sans qu'on s'y attende? Je vis moi-même dans une bulle. J'ai pris le temps de réfléchir et je vous avoue que ça m'a pris du temps. Et je me suis rendu compte, alors que je faisais un don, en écoutant des volontaires, qu'il y avait beaucoup plus de sans-abri à l'heure actuelle à la rue. C'est une flèche du destin qui m'a donné de voir en face le malheur et la misère qui se répand chaque jour davantage. À l'approche des fêtes où l'on décore les villes, nous nous confrontons à l'ignorance de beaucoup qui, bien emmitouflés dans leurs beaux manteaux, font les grands magasins et dînent au restaurant, ignorant volontaire de ce qu'ils détestent. La misère est un venin vicieux qui a l'emprise totale. Beaucoup pensent qu'elle s'attrape, c'est pourquoi on s'en tient éloigné, comme certains qui ne supportent pas de la voir. Le miroir de la misère, c'est un homme avec son chien, tendant une dernière main. C'est une femme du dimanche avec son enfant et une pancarte que l'on n'en verra plus. C'est ce réfugié qui ne sait rien du français qui disparaîtra. C'est ces sirènes et ces associations qui sont débordées, qui malgré tout sont une perche tendue dans un océan surpeuplé. Il y aura les catastrophes climatiques dont les victimes se rajouteront au nombre des démunis et aussi les suicides agrandira les ravages meurtriers. Certains boiront un soir leur dernier verre sans que personne ne le sache car ils auront tout perdu. Ce dernier verre, c'est leur salut à la vie. Il nous faut prendre conscience que ce son de sirène qui perturbe la nuit sauve. Prenons la peine d'y penser et faisons un silence pour eux. Admirons leur bravoure, car ils sont l'humanité. Que ferions-nous sans ces volontaires qui sauvent chaque jour des milliers de vies? Prenons le temps de faire un geste gratuit, juste une envie sincère d'être à l'écoute d'une personne de notre entourage qui est seule et qui a besoin de parler. Pour moi, le plus grand don est l'honnêteté des sentiments sincères. On oublie vite ce qui nous dérange, mais près de nous, dans nos familles, nous sommes touchés, nous sommes aveugles. Il nous est difficile de saisir les appels au secours. Si un proche vous demande, répondez et dites-lui combien vous l'aimez et combien il vous manque. Croyez-moi, c'est important. Il est dur de trouver une main tendue, une âme à l'écoute, à qui s'accrocher. La solitude se nourrit de notre isolement et il est difficile de s'en sortir. Il est encore plus difficile de s'exprimer quand la porte est fermée. Nous sommes beaucoup à vivre cachés, attendant de boire le dernier verre, la dernière danse. Un jour, ce sera mon tour. Comme lorsque le diable me demandera ma vérité, je lui demanderai de m'acquitter, car beaucoup ont péri de ne pas l'avouer. Nulle rose, nulle fleur pour les vies brisées, j'embrasserai mon salut sereine. Tenons la barre et soyons debout jusqu'au dernier jour. Les nuits sont noires et peu fiables, même en été, et partout le monde, dansant la dernière sérénade de mimes et de clowns grimaçants. Et pensez bien, mesdames et messieurs, que ce n'est qu'un salut que vous saurez voir dans le monde qui vous entoure. Vivons nos derniers jours pour nous, pour ceux qui aiment et ceux qui nous apprécient. Et si par malheur on se retrouve à la rue sans plus rien, prenons notre courage pour demander notre chemin, appelons un ami ou un parent. Pour beaucoup, c'est difficile, mais c'est une vérité. Nous sommes peut-être aimés et notre absence fait mal. Des groupes de soutien existent, des repas sont distribués, des vêtements sont collectés, des foyers d'urgence existent. Beaucoup d'associations se mobilisent, le froid frappe. Passez et prenez un café, vous verrez, ils sont très gentils. Merci. Merci. Alors, Valérie. Maintenant, je voudrais vous faire entendre une interview qui a été faite au Rocher de Palmer à l'occasion de Tous au Rocher le 3 octobre dernier. Bonjour Sybille.
Bonjour Valérie.
Comment avez-vous trouvé cette danse africaine?
Eh bien, c'était assez spécial parce que j'avais oublié toutes mes leçons de cours.
Ça s'est pas vu.
Ça s'est pas vu, mais j'ai tout récupéré sur la scène. Donc je crois que c'est assez motivant d'être devant de, plein de personnes. Parce que s'il y a une émulation, il y a une chaleur, on sent qu'il y a quelque chose entre nous. Et donc c'était génial, quoi, voilà.
Merci. Et pour la prochaine fois, que nous promettez-vous ?
Pour la prochaine fois, ben, ils nous ont dit de ne pas abandonner la danse djembé, d'en faire toute notre vie à nous tous. Ils nous ont dit qu'il ne fallait pas abandonner parce qu'on était super doués et que ça nous suivra toute la vie, quoi.
Merci, au revoir.
Au revoir, à bientôt.
Nous sommes avec une de nos infirmières préférées, Nathalie, qui a participé au spectacle de danse du Rocher de Pelmer. Nathalie, qu'en avez-vous pensé de cet exercice sur une scène devant tout le monde ?
Eh bien, j'ai beaucoup apprécié la dynamique et des danseurs et du public. C'était très entraînant et c'était très sympa comme moment.
Et les djembés, le chant, symbolisaient-ils quelque chose ?
Alors, le chant, en fait, il nous faisait chanter « Yala, yala ». Et « Yala, yala », ça veut dire « danser, danser ». Et c'était ça la chanson, c'était pour que tout le monde danse.
Pour s'adresser à tout le monde.
Voilà, exactement. Voilà, c'est pour tout le monde.
Et avez-vous quelque chose à nous dire de plus ?
Non, non, non.
Une dédicace à revenir ?
Ouais, ben j'espère qu'on remettra ça l'année prochaine.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Je viens de sortir du groupe de chant où je suis avec mademoiselle...
Raison Sabine.
Et je voudrais lui poser une question. Comment êtes-vous venu à participer à ce groupe de chant ?
Ben, pas CMP.
Et qui est votre professeur ?
Oh là là, ça c'est une Gabonaise, je ne connais pas son nom, je chante seulement.
D'accord. Et est-ce que c'est bien de faire du chant lyrique ?
Ouais, c'est très bien.
Et le chant du monde transporte un espoir ?
Oui.
Quel espoir ?
On se distrait, on est à l'aise dans sa peau. On écoute la chanson, on nous explique ce que la chanson veut dire. Ouais, y a beaucoup de choses dedans qui sont intéressantes.
Des émotions aussi à retranscrire ?
Ouais, y a des émotions aussi.
Je vous remercie. Au revoir. Ici Valérie, je suis en compagnie du prof de chant et je voudrais savoir son nom.
Adriana Bignani Lesca.
Voilà, Adriana, comment vous est venue cette idée de monter un groupe de chant ?
Alors, ce n'est pas moi. Fabienne ? Alors, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de monter le groupe de chant, en fait.
C'était un groupe de chorale qui existait depuis 5 ans, en partenariat avec le Rocher de Palmer. Et on a voulu changer un petit peu de style et d'exigence. Et on a demandé à Adriana si elle voulait bien nous coacher un petit peu pendant...
Vous êtes chanteuse lyrique.
C'est ça, chanteuse lyrique et afro-lyrique, mais sous deux noms différents.
Mais que signifie afro-lyrique et quelle différence ?
Afro-lyrique, en fait, c'est tout simplement mes compositions. Afro, parce que c'est africaine, parce que je suis africaine. Et lyrique, parce que comme dans mon métier en tant que professionnelle, chanteuse lyrique, je mélange ces deux styles, afro, africain et lyrique, qui est européen. Et du coup, ça devient afro-lyrique sous le nom d'Arela Koyava. Arela Koyava.
Est-ce que c'est ce mélange de culture en vous qui a fait que vous avez fait le chant du monde ?
Non, le chant du monde, je pense que avant même qu'on appelle ça chant du monde, je le faisais déjà bien avant, déjà chez moi, au pays. C'est en Europe qu'on appelle ça chant du monde.
Oui, mais vous êtes une majesté, c'est pour ça.
Ah, voilà ! Là, vous avez tout dit.
C'est vrai, c'est une grande majesté.
Elle aussi, Fabienne, et vous aussi d'ailleurs, vous êtes une grande majesté.
Merci. Que pensent vos étudiants du chant ?
Qu'on a beaucoup de chance de l'avoir, qu'elle nous fait progresser, aller dans nos difficultés, c'est difficile, mais c'est l'exigence d'une grande artiste, donc on a beaucoup de chance.
Moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié le spectacle, je vous remercie.
Merci à vous.
Bonjour madame, vous occupez du tissage ?
Oui, je co-anime le tissage avec une tisserande, qui fait partie de l'association Les Ateliages.
Et en quoi consiste ces activités ?
Alors, on se réunit tous les 15 jours autour de métiers à tisser de table. Et chacun choisit une pièce qu'il a envie de fabriquer à base de tissage. Donc on doit choisir les couleurs de la chaîne et puis après les couleurs des fils qui vont tisser la trame de cette chaîne.
Et c'est dur, c'est monsieur va nous répondre.
Il va nous dire.
Monsieur, voilà, est-ce que
c'est un élève.
Bonjour monsieur, est-ce que c'est difficile comme activité?
Pas du tout. Quand on ne tremble pas, c'est parfait.
Et depuis combien de temps vous a donné à cette activité?
Depuis peu de temps.
Oui.
10 mois.
Une dizaine de mois à peu près, mais c'est très intéressant. Ça rassure, ça calme.
Ça vous apporte du calme.
Voilà. Oui, beaucoup.
L'apaisement.
Oui, là il n'y a pas de burn-out. Ouais. Ça n'existe pas.
Bien,
c'est intéressant. Voilà. Mais il faut être patient.
Voilà. Il n'y a ni âge, ni sexe, ni...
Je pense pas, non, il n'y a pas d'âge pour ça. Il suffit d'aimer. Voilà, c'est un métier qui est très intéressant. Qui demande beaucoup de temps, mais avec le temps, tout va bien.
Et de la patience.
De la patience, voilà. Ouais.
Merci, monsieur.
Et puis, il ne faut pas trembler, surtout.
Voilà. Merci.
De rien.
Je suis avec Hélène, qui est avec ce tableau du centre de jour. Qu'est-ce que ça représente? Vous avez dû travailler dessus?
Mais c'est les pharaons. C'est un travail qui est très appliqué. Ça a mis du temps et c'est beau à voir, voilà ce que j'ai à dire.
C'est collectif quoi.
C'est très collectif, oui.
Vous étiez combien?
On était 7-8 personnes à le faire.
Alors ça représente la mythologie?
C'est la mythologie grecque, oui.
Il y a un peu d'Égyptien, quoi.
Égyptien, oui, voilà. Je ne peux pas trop en parler parce que moi j'ai participé, mais je n'ai pas pu faire grand-chose. Je suis parti en vacances. Mais je suis heureuse de le revoir maintenant, qui est fini et ça me plaît. Voilà.
Merci Hélène.
Merci à toi.
Texte sur les lauriers. Les lauriers, c'est une maison de repos pour les nerfs et pour l'alcool. Je vais de temps en temps aux lauriers pour me reposer, mais surtout pour me mettre à l'abri de l'alcool. Je n'ai pas touché un verre depuis 4 ans. Je suis fière de moi. J'ai une chambre seule avec un petit balcon et la télé. On fait aussi des ateliers. Le lundi, on a du sport, pardon. Dans la semaine, on a des réunions avec des médecins. Le mercredi après-midi, je fais de la balnéo. Les infirmières sont très gentilles. Ils s'occupent bien de nous. On mange en bas dans la salle à manger. J'ai des amis là-bas, ils sont très gentils avec moi. Merci.
Merci Sylviane pour ce beau texte. Un tout autre texte de Serge Gainsbourg. Une musique, une chanson, le poinçonneur des lilas que nous allons écouter.
De la part d'Antoine.
De la part d'Antoine, bien sûr.
Je suis le poinçonneur des lilas. Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille,
et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Nous sommes toujours en direct sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 avec pour invité... Madame Paradès.
Exactement.
Cette émission est la 38e et de Pas d'affolement nous voilà avec Cécile Paradès. Il y a actuellement dans le studio Alain, Brigitte et moi-même, Valérie, très angoissée. J'ai une question pour vous, Cécile, Anne-Sophie, Anne-Cécile. Anne-Cécile. Avec quel support travaillez-vous, argentine ou numérique?
Alors, j'ai fait les deux. J'ai commencé par de la photo argentique au tout début parce que j'aimais bien la pellicule, j'aimais bien le rituel de la mettre à l'intérieur, de me dire que c'était vraiment réel parce que la lumière rentrait et faisait un souvenir qui était une photo. Et puis j'aimais bien aussi le fait que c'était physique, je gardais mes pellicules, je les développais pas forcément direct. J'aimais bien le matériel et puis petit à petit, le monde change. Et comme beaucoup de monde, je suis passée à du numérique, mais plutôt sur des pratiques professionnelles. C'est-à-dire que comme je me suis mis à faire de la mise en scène, l'Argentine ça me coûtait trop cher. et donc du coup, je suis passée au numérique à ce moment-là. Mais je garde toujours un travail argentique plutôt pour ma vie privée, pour les photos de famille, de mon compagnon, de mon fils. J'aime bien parce que je trouve ça, en vrai, je trouve ça plus beau.
Est-ce que le contact par rapport au développement justement de l'argentique, j'en profite pour vous le demander parce que ça m'intéresse beaucoup, est le même avec le numérique?
Eh bien non, parce que après moi j'ai toujours fait de la couleur, donc j'ai toujours envoyé à des labos qui l'ont fait pour moi. Mais effectivement, ceux qui travaillent en noir et blanc, ils peuvent apprendre à développer. Et du coup, ils ont une maîtrise vraiment totale.
Le flou et tout ça.
Voilà, ils peuvent maîtriser de A à Z leur processus de création. Alors que le numérique, ça existe d'une autre manière. Parce que moi, maintenant, aujourd'hui, je fais des photos en numérique. Et puis après, le mot, c'est qu'on fait de la post-prod. Ça veut dire qu'on passe derrière l'ordinateur. Et finalement, le logiciel, il va me donner les mêmes outils, mais c'est pas en vrai, quoi. C'est informatique.
Un manque de matière.
Mais je vais toucher la lumière, le contraste, un peu comme dans un labo, à part que je suis derrière un ordinateur, en fait.
D'accord.
Vous pouvez nous expliquer la différence entre l'argentique et le numérique?
Eh ben, c'est justement ça. C'est-à-dire que dans l'argentique, il y a la pellicule. Et du coup, cette pellicule, déjà, il faut l'acheter. On la met dedans, on a pareil, on fait les photos. Il y a un nombre précis de photos, donc de 24 à 36, de 12, 24 ou 36. Et donc du coup, comme c'est un coût, par exemple, on est obligé de réfléchir à quelle photo on va prendre. Parce que aujourd'hui en numérique, c'est une très grosse différence entre les deux. On peut en faire 100 photos du même sujet en fait. C'est pas ça qui va coûter plus ou moins cher. Et je pense qu'en fait, on réfléchit quand même, mais on réfléchit après. On réfléchit quand on est devant son ordinateur. Alors que là, en photo argentique, quand tu sais que tu n'en as que 36, tu réfléchis autrement avant d'appuyer, quoi. Tu dis, est-ce que c'est vraiment celle-là que je veux?
La photo la plus libre, c'est...
Je sais pas.
Dans l'expression?
Je sais pas.
Pour arriver à optimiser ce que vous avez envie de montrer?
Je dirais qu'il y a des espaces de liberté dans les deux, mais il y en a un... tu réfléchis plus à la prise de vue au moment où tu appuies sur ton déclencheur. Et il y en a un, tu réfléchis plus...
au matériel.
Ouais, à la fin, quand tu es derrière ton ordinateur, quoi.
Travaillez-vous en lumière artificielle ou en lumière naturelle ?
Eh bien, je peux faire les deux. Mais c'est-à-dire que si je travaille deux jours, je vais plutôt privilégier une lumière naturelle. Mais dès que je travaille en intérieur ou dès que je travaille la nuit, et j'aime bien ça, j'avoue, je vais utiliser des flashs, un peu comme dans des photographies de mode, quoi. Mais même des fois en jour, si c'est un peu sombre, s'il y a du contre-jour... Le problème des flashs, c'est que plus t'en fais, plus t'en fais.
Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous préférez le travail brut, c'est-à-dire sur le vif, ou le travail retouché
Eh ben moi, j'essaye toujours, mais c'est aussi parce que j'ai travaillé avec une amie qui faisait son travail, c'est de faire de la retouche, et elle dit toujours « tout à la prise de vue ». C'est-à-dire que le mieux, c'est de faire le plus propre possible au moment où tu fais ta photo. Parce que c'est pareil que quand on disait la lumière artificielle, plus t'as de flash, plus t'en mets. C'est pareil, la retouche, c'est plus tu commences à dire « Oh mais non, mais là, finalement, lui, je l'enlèverais bien, on pourrait faire ci... » Il n'y a pas de limite, en fait. Donc le mieux, c'est de faire tout à la prise de vue, et si vraiment tu trouves qu'il y a un problème, moi, j'essaye un maximum d'éviter, je dirais, de tricher trop, quoi. Enfin, je sais pas si c'est tricher, mais en tout cas, j'essaye de tout faire sur le moment.
D'accord. Retouchez-vous vos photos ou préférez-vous un travail brut ? C'est ce que je viens de vous poser comme question. Et vous m'avez dit oui. Vous préférez un travail brut ?
Ouais, je préfère un travail brut, ouais.
Quels critères retenez-vous pour faire une bonne photo ? Enfin, pour une photo idéale. Pour
ouais.
Caliente, comme on dirait chez vous.
Moi, je dirais d'abord la lumière. Non. Peut-être d'abord le sujet. Qu'il faut d'abord savoir ce que tu as envie de photographier. Et une photographie, c'est comme on montre du doigt quelqu'un, quoi. Si tu montes ta photo et que la personne directe, elle sait de quoi tu parles, ça veut dire que tu as réussi.
Si elle exprime quelque chose.
Ouais, et quelque chose que l'auteur, il voulait te faire exprimer.
C'est magnifique.
Et à partir de ça, je dirais en second... Derrière, c'est la lumière, en fait, mais ça va avec. Une jolie lumière, quand même, ça fait tout, quoi.
Maintenant, je pense que Brigitte a quelque chose à nous dire.
Oui, je voulais vous présenter mon texte parlant de la foire de l'Auréole.
Oui, Brigitte a juste son micro un peu éloigné d'elle.
Je voulais vous présenter mon texte qui parle de la foire de l'Auréole.
Alors, je vais vous raconter l'histoire de la foire exposition de l'Auréole. À la foire, il y a beaucoup de stands, de vêtements, de chaussures, de vaisselle et de nouveautés dans les articles ménagers. J'aimerais qu'il y ait des mélangeurs de salades, c'est-à-dire un appareil comme un crabe qui retourne la salade avec des piles et un bouton. Ce serait bien. Plus besoin de couverts à salade. Il y a aussi des nouveaux produits pour faire les vitres facilement. Il y a aussi pour le chauffage des pompes à chaleur, des clims, des nouveaux poêles à granuler, des inserts et des poêles à bois. Il y a aussi des bijoux, des stands pour goûter aussi le vin de la vigne, des chichis avec aussi des crêpes, gaufres et toutes sortes de parfums. Tout cela attire des manèges pour petits et grands. Le train fantôme, le grand 8 auto-tamponnante, le tagada, des bonbons et nougats parfumerie. Il y a de tout pour regarder les nouveautés et de s'amuser, passer deux jours de plaisir. Il y aura la radio entre deux mers de Sauveterre, avec interview des jeux à gagner ou peluche et tout autre. Voilà ce qui se passe à la foire d'Auréole.
Merci Brigitte. Maintenant, moi à nouveau, Valérie, j'ai un texte sur la séduction que j'ai écrit pour vous et j'espère que ça va vous détendre. La séduction vue par les phéromones. De nos jours, il n'est pas facile de plaire, mais la science n'a pas dit ses limites. Dans les jeux de séduction, des années à venir, les phéromones feront un grand chamboulement. Il est important de savoir que tout le monde a des phéromones. Ce que nous ignorons, c'est qu'elles ont un rôle déterminant dans les relations et interactions. Pour comprendre, on doit savoir qu'il y a derrière l'appellation phéromone un énorme pouvoir qui se cache aux vertus étonnantes. Les phéromones sont des substances chimiques émises par les animaux et par certaines plantes. Ce que nous savons, c'est qu'elles jouent un rôle de messager pour signifier qu'une femelle est en période de chaleur. Chez l'homme, elles sont mélangées à la sueur et se dispersent dans l'air. Et se dispersent rapidement plutôt dans l'air. À ce jour, les scientifiques ont synthétisé les phéromones sexuelles humaines. Elles servent à donner un caractéristique sympathique et attirant à une personne. L'explication scientifique est que les phéromones donnent un charme inexplicable. Il faut savoir que nous sécrétons des phéromones plus puissants que d'autres. Aux réactions de l'homme, les résultats sont surprenants et très motivants pour les séducteurs. Les phéromones ont une incidence sur l'attraction. Il est important de savoir que beaucoup d'entreprises se sont penchées sur ce phénomène. Par exemple, des parfums soi-disant miracles. Mais les recherches n'ont pas abouti et le parfum miracle n'existe pas. Navré de vous décevoir. Malgré tout, le parfum est à tous un atout de séduction certain. Et ainsi séduisez qui vous plaît. Vous avez là un atout majeur. À bientôt.
Bon, voici maintenant deux textes d'Arca. Arca, une de nos plumes.
L'automne. N'étant sourd aux excès de l'été, me secourt des chagrins diluviens. Mon parcours bien trop lourd d'éventrer, d'endeuiller, avec soin, n'entretien. Tous nos discours donnent jour aux idées de composer des refrains aériens, des refrains vésuviens. De ces giboulées, pluies engrêlées, ou de ces bruines, de ces ondées, ne m'en frissonne, ne peut m'inquiéter, sine qua non l'automne met. Demi-tour, peu dicté, ordonné, aux vautours, aux vilains, aux vauriens. Ces tambours, tour à tour, font trembler, meurtriers, les essaims bactériens. Tous ces atours de velours gouachés me font rêver, de regains quotidiens, de regains qui sont miens. De ces vents rués entrelacés, ou de ces brises, de ces risées, ne me talonne, ne peut me brusquer, sine qua non l'automne met. Chagrin. Sans un bruit, il me distord, malgré les mois qui passent. Noyé, j'ai l'âme, le corps, malgré moi, me tracasse. Je n'ai pas su, à grand tort, soigner ta vie fugace. Depuis, ne vais bien, ne dors, ton agonie ressasse. Aujourd'hui, s'évapore, comme un parfum tenace, suis dans un glauque décor, comme un chien sous menace. Je tue le temps, explore toute forme d'audace, mais le chagrin, m'enfort, plus rien ne me replace. Plus en accord est ma raison, qui cherche partout sa place. Plus de ressort ni d'horizon, le dégoût de tout m'impasse.
Nous remercions Arca pour ce texte et maintenant je vous présente le troisième épisode de La vie du guette.
Oui, bonjour, aujourd'hui Eric Falleré la radio. Huguette, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire où vous étiez pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors ça fait 39. Alors en 39, quand la guerre a éclaté, moi je me préparais à partir en pension à Bordeaux parce que j'avais 12 ans et à Créon, les écoles, c'était des écoles primaires, même l'école publique, ça n'allait que jusque-là. Alors j'avais passé le certificat d'études, mais mon père voulait que je continue, puis moi ça ne me déplaisait pas parce que j'aimais bien l'école. Je suis rentrée au mois d'octobre à Bordeaux, dans une institution religieuse qui, là vous allez connaître peut-être, à Bordeaux, la grosse cloche, vous savez où elle est ? Bon, il y a une rue qui passe dessous et elle se prolonge, elle continue et elle s'appelle la rue du Mirail. Bon, alors ils prenaient des pensionnaires, on était, je sais pas moi, environ 80 pensionnaires peut-être, et puis après des externes qui venaient le matin, des demi-pensionnaires qui mangeaient à midi et puis qui repartaient le soir. Et c'était des religieuses qui avaient un bonnet tuyauté tout autour de la figure, Je ne sais pas si elles existent encore. Voilà, alors je suis rentrée là et j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer. Parce que bon, j'étais quand même très gâtée à la maison. Parce que du fait que je n'avais pas ma mère, mes grands-parents, mon grand-père et mon père voulaient compenser. Alors quand je voulais quelque chose et puis qu'ils ne pouvaient pas me le donner, je commençais à pleurnicher et aussitôt on faisait ce qu'on pouvait pour me le procurer. Ça fait que j'étais très capricieuse. Ça m'a fait du bien d'ailleurs parce que si j'étais restée chez moi, j'aurais été une vraie... Je n'ose pas vous le dire, une vraie garce. J'avais besoin d'être un peu redressée.
Que se passait-il dans votre lycée lorsqu'il y avait des bombardements?
Ah oui, 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 il y avait des alertes. Alors là, c'était le début de la guerre. On était loin, nous, quand même, du front. Mais ça s'est beaucoup, très vite changé parce que les Allemands sont rentrés comme dans du beurre. Hein. On n'a pas beaucoup résisté. Et ils se sont avancés jusque, je ne sais pas moi, pas jusqu'à Paris, mais pas loin. Alors, bon, à ce moment-là, les bombardements des Allemands ont commencé, là et ailleurs, il n'y avait pas qu'à Bordeaux. Alors, la sirène sonnait, il y avait une alerte, vite, on descendait à la cave. Il y avait beaucoup de grandes caves dans cet établissement, parce que c'était un vieux bâtiment du 16e ou 17e siècle. Et il y avait des caves magnifiques d'ailleurs, on ne s'en rendait pas compte parce qu'on ne s'en occupait pas, de ça. Mais enfin, on allait à la cave et puis on entendait les bombes qui éclataient, et on avait un peu peur, mais je ne sais pas si on se rendait bien compte de tout le danger, tant mieux, il vaut mieux comme ça.
Ça ne va pas être évident.
Alors, mais les religieuses étaient sévères et on ne bougeait pas. Et quand elles avaient dit « il ne faut pas faire ça » ou « taisez-vous », on écoutait. J'écoutais plus les religieuses que je n'écoutais mon père et mon grand-père. Bon, alors voilà, mais on n'a pas été touchés, nous, par les bombardements. Non, ça n'a pas été des endroits peut-être plus importants que là, parce que des institutions pour les enfants, des écoles, ça ne les intéressait pas, ça, ils s'en fichaient.
Les années 68, c'était comment?
Les années
68.
Ah, 68. Où est-ce que j'étais en 68, moi? J'avais 40 ans, 41 ans. Eh bien, mais j'étais à Paris, oui. Moi, ça ne m'a pas beaucoup marqué, si, mais je n'ai pas été impliquée parce que ça ne s'est pas tellement passé vers là où j'étais, quoi. Moi, je travaillais au centre de chèque, c'était dans le 15e aussi, mais plus vers l'extérieur. Ça s'est passé plus dans les endroits étudiants et tout ça. Ça s'est un peu agité, bien sûr. Il y a eu des grèves, il y a eu... Bon, moi, je ne la faisais pas, la grève, parce que j'avais besoin de gagner ma vie. Hein.
Nous vous remercions, Huguette, pour tout ce que vous avez fait pour nous.
Oh, je n'ai pas dit grand-chose.
C'est déjà beaucoup.
J'ai beaucoup parlé, mais je n'ai pas dit des choses tellement utiles, peut-être.
Alors, suite au décès récent de Stéphane Houquin, le groupe Actualité a mené un travail de recherche que je vous présente. Stéphane Houquin est né en 1942 à Oxford et est décédé en mars 2018, le jour de l'anniversaire de la naissance d'Albert Einstein. En 1964, âgé de 22 ans, un médecin lui diagnostique la maladie de Charcot, ou la sclérose latérale amyotrophique, avec une courte espérance de vie. En 1966, il obtient son doctorat de physique et effectue des recherches sur la cosmologie, qui est une branche de l'astrophysique, étudiant l'origine, la nature, la structure et l'évolution de l'univers, ainsi que sur la gravité quantique, qui est une branche de la physique théorique. Je me marre parce que moi qui n'ai rien compris aux fractions, il me fait rêver. Malgré l'évolution de sa maladie, Stéphane Houquin continue ses recherches. Entouré de physiciens et de mathématiciens célèbres, ainsi que d'étudiants. En parallèle, il se marie et fonde une famille. En 1985, sa maladie continuant de s'aggraver, il perd l'usage de la parole. Grâce à des médecins et chercheurs, il met au point un système lui permettant de communiquer en utilisant un ordinateur et des haut-parleurs, qui transmettent sa parole par une voix de synthèse. Il énonce cinq prédictions, dont la plus célèbre porte son nom, le rayonnement de Wokun, qui porte sur les trous noirs. Au cours de sa carrière, il sera décoré de médailles, obtiendra des prix de physique et publiera un livre. Il décédera en mars 2018, des suites de sa maladie, à l'âge de 76 ans. Sa mère témoignera de l'incidence positive de sa maladie sur sa carrière de physicien, le poussant à être très performant.
Merci Alain. Maintenant, je voudrais vous faire écouter un texte choisi par Joseph Van Aleph, Jump.
Rappelons que nous sommes toujours sur Radio Entre Deux Mers 98.4 pour cette 38e émission de Pas d'affolement. Nous voilà, Anne-Cécile Paradès. Il y a actuellement dans le studio Houssine, Philippe, Valérie et moi-même Sylviane.
Alors, quels sont les déclics qui vous ont permis de faire vos choix? Non, c'est pas ça, on s'est su. Oui, on va écouter Guylain. On va écouter le texte de Guylain qui parle de ses souvenirs d'enfance. On s'est trompé, pardon.
Voilà, je vais vous raconter un agréable, ou plutôt désagréable souvenir d'enfance. Comme un flash dans ma mémoire, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. C'était il y a si longtemps, plus d'une trentaine d'années. Je me vois encore pleurer, puis sourire. C'est assez paradoxal, mais à ce jour, je me suis senti délesté d'une partie de mon corps dans la douleur. Pour enfin finir dans un énorme nuage de joie et de bonheur. De mon propre chef, je n'aurais jamais franchi le cap de me faire circoncire. Le fait de voir ce long couteau m'a sur le moment tétanisé. J'étais à cet instant épouvanté et sans voix. L'acte en soi n'a duré qu'un instant, c'est-à-dire couper le prépuce moins d'une seconde, avec détermination. Mes parents m'ont dit dans le passé que l'on m'avait emmené à Brazzaville, au Congo, chez un docteur et qu'on faisait ça à tous les garçons de la famille. En gros, on m'a expliqué que si je devais passer cette épreuve, c'était tout d'abord pour des raisons d'hygiène et parallèlement pour des raisons de croyance ethnique. Comme on dit, après les efforts, il y a le réconfort. Autrement dit, après les pleurs, la récompense. Je me vois encore fondre en larmes, jusqu'à ce que ce gentil médecin vêtu de blanc me tende une sucette et me dise « C'est bien mon petit garçon, tu as été courageux, c'est très bien. » Et enfin, la cerise sur le gâteau. Musique, boisson, nourriture, danse traditionnelle, des tas de convives, tous les ingrédients d'une soirée réussie. Je peux vous garantir que je me souviendrai de ces instants qui ont pour toujours marqué ma vie.
Voilà, merci Guylain pour ce beau texte. Alors, comme tous les mois, la présentation des actualités culturelles avec Arca. Corinne.
Et maintenant, les infos et la page culturelle. À Sainte-Croix-du-Mont, à l'agence postale, actuellement visible, compte-gouttes, exposition photo de Marie-France Tessier. À la Réole, salle des conférences, ce soir à 20h30, mon ado boit, fume, joue, que faire. Conférence tout public, organisée par la mission locale Sud-Gironde. À Pujol-sur-Siron, au foyer rural, samedi 1er décembre à 20h30, 1h30 de retard, comédie théâtrale de Gérard Sibleras et Jandel, proposée par l'UTL Arts et Découvertes en collaboration avec la compagnie Volantia. À Béguet, salle des fêtes, dimanche 2 décembre à 15h, Paul m'a laissé sa clé, théâtre de François Char avec l'amicale théâtre de Fargues Saint-Hilaire. À Sauternes, Château Trillon, samedi 8 décembre à 18h30, les Bobinards chantent Bobby Lapointe. À Sauveterre de Guyenne, samedi 1er décembre à 20h30, le Théâtre des Salinières et Radio Entre deux Mers présentent une famille modèle, salle Simone Veil, plus importante tombola en partenariat avec TF1 et Téléshopping. À Langon-au-Carme, jeudi 2 décembre à 15h, Équateur du pays des géants endormis, ciné-conférence en présence de la réalisatrice Laurence Fleury. Jeudi 6 décembre à 20h30, Songe, théâtre et musique avec la compagnie Florence Lavaux. Samedi 15 décembre à 20h30, concert de Noël proposé par le chœur des Rugueux. Jeudi 20 décembre à 20h30, des concertos, humour et musique avec Orchestra de Cambra de Lamporda. Et dimanche 23 décembre à 15h, la route Napoléon sous le vol de l'aigle, ciné-conférence en présence du réalisateur Daniel Drion. Toujours à Langon, à l'église Saint-Gervais, dimanche 2 décembre à 16h, concert-événement, chœur, trompette et orgue, organisé par l'association Lucien Fouchy. À Portes, La Forge, le samedi 15 décembre à 18h, le Ballon Rouge, ciné-concert en famille d'Albert Lamaurice. Et vendredi 21 décembre à 20h30, une famille modèle, comédie théâtrale d'Yvan Calberac avec le Théâtre des Salinières. À Cadillac, salle du conseil de la mairie, vendredi 30 novembre à 20h30, Amour sorcière, concert de Julie Lagarigue. Ce même jour à 20h30, salle du Croc à Cadillac, culture et liens sociaux, café débat plus buffet, organisé par les Passerelles de Cadillac. La programmation du Cinélux du 29 novembre au 25 décembre. Les films à l'affiche, Sauver ou Périr, Bohemian Rhapsody, Le Grand Bain, Un Amour Impossible, Amanda, Les Chatouilles, Aga, Balto Chien-Loup, Un Homme Pressé, Rémi Sans Famille, Pupille, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, Leto, Pachamama, une affaire de famille, Arthur et la magie de Noël, le Grinch et les bonnes intentions. Les séances exceptionnelles, jeudi 29 novembre à 20h30, Les Invisibles, film de Louis-Julien Petit en partenariat avec la CPG. Vendredi 30 novembre à 20h30, Le Grand Bal, film documentaire en partenariat avec Sina, séance suivie d'un concert bal et un vin chaud dans le hall du Cinélux avec le groupe Jinji A, gratis. Dimanche 2 décembre à 16h, Astérix, le secret de la potion magique, film d'animation tout public d'Alexandre Astier et Louis Clichy France, avant-première. Dimanche 23 décembre à 15h et mardi 25 décembre à 19h30, hommage à Jérôme Robbins, ou Robbins, ballet en différé du Palais Garnier.
Ben, je suis résultat de la 10e journée de Top 14. Agen a perdu contre Montpellier 15 à 18. Bordeaux-Bègles a battu Toulon 36 à 25. Pau a perdu devant Toulouse 13 à 15. Perpignan a perdu devant Castres 12 à 16. Racing a battu Grenoble 24 à 3. Clermont a battu Lyon 31-11. Le Français a perdu devant La Rochelle 12-14. Voici les classements. Premier Clermont, deuxième Toulouse, troisième Racing, quatrième La Rochelle, cinquième Stade Français, sixième Castres, septième Bordeaux-Bègles, huitième Lyon, neuvième Montpellier, 10e Pau, 11e Grenoble, 12e Toulon, 13e Agen, 14e Perpignan.
Merci aussi pour ces résultats intéressants. Alors je reviens à vous, Anne-Cécile, je vous rappelle que vous êtes notre invitée, Anne-Cécile Paradès, photographe d'art. Alors est-ce que la photographie est un art ?
Oh oui, bien sûr. Il y a plein de types de photographies comme plein de types de photographes, mais oui, ça fait partie des arts.
Et alors est-ce que vous en vivez bien de cet art ?
Je sais pas bien, mais j'en vis. C'est déjà,
oui,
c'est déjà pas mal. Hein,
oui,
mais bien, je fais partie des gens qui vivent de leur travail et c'est chouette.
Et alors, avez-vous un maître penseur ? Sylvia va vous poser cette question.
Avez-vous un maître penseur, un photographe de référence ?
Je dirais, c'est un grand classique, mais j'aime beaucoup les photographies de Jeff Wall parce qu'il met en scène aussi des personnes. Voilà, il fait beaucoup de mises en scène.
Et des stars, vous en avez rencontré dans votre métier ?
Des stars ?
Oui, de votre carrière. Des stars à photographier, ou peut-être pas.
Oui. Non, je crois pas. J'essaie de me rappeler, mais non, je crois pas.
Vous nous photographiez, comme ça, vous en aurez.
Ouais, grave.
Merci Cécile, vous faites notre humour. On va se quitter, on va remercier de votre gentillesse.
Merci beaucoup à vous de votre accueil, c'était un plaisir. Ouais,
cette émission fait partie de l'art. Hein.
Oui.
Pour moi, c'est de l'art.
C'est de l'art radiophonique.
Voilà. Et alors, pour conclure, merci à tous ceux qui ont participé, aussi Sylviane,
Brigitte, Nathalie,
etc. Tous ceux qui ont contribué à cette émission. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les jeudis de 14h à 15h sur podcast et sur Internet. Merci. Au mois prochain.
Au mois prochain.
Pas d'affolement.
Nous voilà.
Pas d'affolement.
Nous voilà.
Voilà.
Pas d'affolement.
Nous voilà.
Pas d'affolement.